redécouvrir Hélène Pedneau. Série de balados sur les écrits et la vie de Hélène Pedneau, regroupant des lectures d'œuvres et des extraits d'entretiens avec des personnes qui l'ont côtoyée. Quatrième série, les chroniques délinquantes de la vie en rose. Épisode numéro 7. Chronique numéro 28, y a-t-il un Provigo dans la salle ? Ou comment ne pas devenir un supermarché ? Bon, je me suis chicanée avec ma meilleure amie. De guerre lasse, j'ai fini par lui hurler au téléphone « Je ne suis pas un Provigo, qu'est-ce que tu crois ?» J'étais désespérée. Elle a éclaté de rire. Ça fait 3 jours, je crois, qu'elle rit encore. La chicane a fini là. Je la voyais se promener en moi avec son chariot à provisions. Un peu de ça. Non, pas ça, j'en ai pas besoin. Une provision de ça, un quart de livre de ça, une livre de ça. Ah non, pas ça, je déteste ça. Ça étant différentes parties de moi. J'ai pris mon surmoi et je me suis drapée dedans. Il y a des gens comme ça qui prennent et qui laissent. Je refuse d'être magasinée à rabais ou en morceaux. Avec moi, c'est tout ou rien. Non mais, c'est chiant les gens qui nous font sentir 100 fois par jour qu'on n'est pas parfaite avec détails à haute précision. Je les connais, mes imperfections. Pas besoin de les éclairer avec une ampoule de 1000 watts qui, de toute façon, rend aveugle. Le tout ou les parties. La poule ou l'œuf. L'œuf ou l'argent. Ce besoin de polariser tout le temps, c'est épuisant. Je sens qu'on veut me diviser pour mieux régner. Après tout, ça se peut d'être à la fois très raffiné et de parler fort, ou de se décrotter le nez avec une robe de $500 sur le dos, ou de sortir un gros mot de temps en temps dans un langage par ailleurs assez étudié. Ça fait du bien les imperfections quand on sait que c'en est. En fait, les imperfections, on devrait pouvoir les accepter quand on aime quelqu'un, presque aussi bien que les grandes qualités. Prendre le paquet ou rien, le paquet en question n'ayant rien à voir avec la grosseur de la personne concernée. Je suis comme ça de toute éternité. Je n'ai jamais pu morceler mes sympathies, ni mes antipathies, ni mes affections, ni rien. Ce n'est pas très subtil. Ça aussi, c'est apprendre ou à laisser. En plus, ça m'amène à avoir l'air de lancer des ultimatums à tout vent. Pas du tout. J'appelle la même tolérance envers mes gouffres, imaginez la profondeur des failles, que j'essaie d'en avoir avec ceux des autres. Mais là, en écrivant, je me rends compte que je mens en partie. En fait, ma tolérance ne s'applique qu'à un niveau individuel, pas du tout à un niveau collectif, encore moins politique. Et je revois tout à coup Robert Bourassa à Paris, au sommet de la francophonie. Il a fait une première sortie très remarquée en parlant d'agriculture. C'est normal. Il n'a jamais fait la différence entre culture et agriculture. C'est vrai. À peine a-t-il pris le pouvoir qu'il laboure le budget des affaires culturelles, sème la panique à l'Orchestre symphonique, au Musée d'art contemporain et dans tous les théâtres de la ville, et récolte quelques malheureux millions de plus pour pratiquer son coûteux dada, construire des barrages. Peut-être se souvient-il qu'en effet, la culture dépendait du ministère de l'Agriculture jusqu'à la fondation du premier ministère des affaires culturelles. Monsieur Duplessis voyait le rapport lui aussi. Ce n'est pas si loin. C'est peut-être à cause de ça que nous, les Québécois, Québécoises, gardons profondément ancré dans notre inconscient collectif la peur d'être, au fond, des habitants, des habitantes. Il faudra fouiller cette hypothèse un jour. Saint Sigmund, priez pour nous. Mais à la quantité de psychothérapeutes qu'il y a ici au mètre carré, on devrait pouvoir régler ce problème agricole très bientôt, j'ai bon espoir. Bref, pour en revenir à M. Bourassa, entêté comme il est, il va nous remettre le bilinguisme sur le nez, dans la bouche et dans le cul en 2 temps 3 mouvements. Les journaux l'ont écrit en caractère gras. Le bilinguisme refleurira le long de nos autoroutes, dans nos rues et dans nos magasins. Le journaliste avait l'air content. Pas moi. Premièrement, le bilinguisme n'est pas une fleur, ou si c'en est une, elle est vénéneuse, de l'herbe à puce, quelque chose qui ne sait pas vivre, comme quelqu'un qui porterait des pantalons de fortrelle avec une blouse en soie fine et des souliers en cuir fin d'Italie. Si vous rencontrez quelqu'un habillé comme ça, vous lui direz que ça ne va pas, que quelque chose cloche. Pareil avec le bilinguisme. On ne peut pas endurer un tel manque à l'esthétique. Il faudra dire à M. Bourassa que les Québécois, Québécoises ne sont pas morcelables comme ça, qu'ils et elles ne pourront pas tolérer d'être traités à rabais dans leur langue et que c'est à prendre ou à laisser. Comme moi avec les individus. Je ne veux pas être un Provigo, mais je ne veux pas non plus être un dépanneur ouvert 24 heures pour servir la clientèle au maximum. Je ne veux pas servir en tant que peuple non plus. Je sens qu'on veut nous diviser pour mieux régner. Wake up or die, les amis. Mai 1986.
dans son cercle d'amis, elle avait des gens très différents. Tu sais, elle n'était pas cantonnée sur un type de personne. C'était des gens très différents. Certains portaient une cause avec elle, d'autres portaient plusieurs causes avec elle. Mais tu avais de tout, des intellectuels, des militants, des poètes, des chanteurs, des gens de théâtre. Elle a fait du théâtre, elle a écrit des textes merveilleux, le signe du lion. Bon, quand elle a fait l'adaptation pour la télé, elle avait un rapport aussi avec l'art, la culture, le théâtre. Elle aimait les artistes, tu sais, qu'elle mettait en scène. Tu sais, c'était une femme qui avait un cœur immense. Il y avait toujours de la place dans le cœur d'Hélène pour quelqu'un de plus. Tu sais, c'est ça.
Chronique numéro 29. Y a-t-il une vraie femme dans la salle? Ou « Real Woman, Real Muffin ». Toronto, le 15 mai 1986. Madame Jeanne Benoît, la cuisine arraisonnée, Montréal, Canada. Ma chère Jeanne, c'est un appel au secours que je vous écris en silence parce que je crois que vous êtes la seule personne au monde à pouvoir régler mon angoissant dilemme, les thérapeutes étant trop chers. J'étais en train de faire ma recette habituelle de muffin, le regard perdu dans mes pensées domestiques, me réjouissant dans mon cœur en pensant à la joie habituelle de mon mari et de mes enfants devant mes beaux muffins tout bruns et tout chauds, quand tout à coup, ma main droite se figea dans le bol Corningware que ma mère m'offrit pour mes 25 ans. Un doute insupportable venait d'envahir les méandres complexes de mon cerveau direction. Les muffins doivent-ils absolument contenir des raisins pour être des vrais muffins authentifiés ? Devais-je continuer à ne pas en mettre parce que mon mari a toujours eu dédain des raisins, y compris dans le vin? Ou devrais-je au contraire en mettre parce qu'il n'y a pas de vrai muffin sans raisins? Imposer ma décision en toute lucidité à mon mari, en lui faisant comprendre qu'à notre niveau de standing, nous ne pouvions pas nous permettre de manger du toc. Je ne résolus pas mon problème. Il n'y eut pas de muffin cette journée-là. Je culpabilisais sans rien dire de mon angoisse devant les regards tristes et bourrés de reproches silencieux de mon mari et de mes enfants. Ils furent très compréhensifs envers moi, ils ne dirent rien. Mais après 3 jours d'insomnie carabinée, je me résous à vous écrire. J'ai peur de développer un cancer à force de douter de l'authenticité de mes muffins. Parce que, vous comprenez, je viens d'adhérer à un mouvement révolutionnaire qui a bouleversé ma vie. Et depuis que j'ai choisi le vrai chemin, tout est tellement plus clair pour moi. J'ai enfin compris la célèbre phrase de Simone de Beauvoir « On n'en est pas femme, on le devient ». Parce que c'est l'illumination que j'ai eue récemment en découvrant l'existence de ce mouvement. J'ai aussi compris pourquoi elle avait intitulé son livre « Le deuxième sexe ». Elle avait raison, nous sommes effectivement le second et nous sommes faites pour être les deuxièmes. Comme c'est valorisant d'être une excellente deuxième, sans le poids de la responsabilité énorme de la première place. Nous n'avons pas les reins assez solides, je me rends compte tous les jours en transportant mes sacs de commission et mon panier de linge mouillé de la cave à la corde à linge. Ça sent tellement meilleur au grand air. Mon mari et mes enfants n'en reviennent jamais, ce qui me valorise beaucoup. Mais vous devez connaître déjà ce merveilleux mouvement puisque nous avons fait la une du très sérieux Devoir, ce qui est pour nous une reconnaissance extraordinaire. Il s'agit des Real Women. J'espère qu'au Québec, vous éprouverez comme toujours le besoin de traduire l'expression n'ayant pas encore résolu le problème du bilinguisme. Pour vous faire plaisir, je dirais les vraies femmes. Ça ne fait pas de différence pour moi, c'est la réalité qui compte. Moi qui avais toujours eu un gros problème d'identité, voilà que j'ai enfin trouvé ma voie. Notre première action officielle sera de militer contre le lave-vaisselle, parce qu'une vraie femme ne peut vivre son identité que les mains dans l'eau de vaisselle bien savonneuse. Nous recommandons Ivory parce qu'il laisse les mains douces pour caresser les maris stressés par trop de responsabilités. Je pense, donc j'essuie, est une de nos devises. Nous avons bon espoir de convaincre les multinationales du bien fondé de notre première revendication. Nous n'en aurons qu'une à la fois, comme ça nous effraierons moins les gens. Entre vous et moi, le féminisme nous aura au moins appris ce qu'il ne faut pas faire. Gloire à ces furies d'un autre temps. Requiescat in pace. Et swing la baquesse dans le fond de la boîte à bois. Halte là, halte là, halte là. Les real women sont là. Mon Dieu, je me laisse emporter par mon enthousiasme débordant. Excusez mes folies. Pour en revenir à nos muffins, j'attends de vous une réponse imminente. Depuis que je suis une vraie femme, je ne peux me permettre à aucun moment que le faux l'emporte sur le vrai. Je suis dans l'authentique à temps plein. J'écouterai votre parole religieusement, vous ne perdrez pas votre temps avec moi. Je suis quelqu'un qui croit en vous comme des milliers de femmes avant moi. Veuillez agréer, chère Joanne Benoît, mes sentiments les plus vrais. La vraie Betty Crocker, juillet-août 1986. Chronique numéro 30, y a-t-elle une artiste dans la salle ? Ou glissement progressif de la statue au statut. Les artistes ne sont pas des gens comme les autres, faut pas croire. Même si elles essaient de nous prouver que non, que c'est un travail comme un autre. Premièrement, la création n'est pas un travail, tout le monde le dit, c'est une obsession. Et l'obsession, notre société a la manie de toujours vouloir la soigner à tout prix, et qui plus est, de la guérir. C'est une obsession, on n'en sort pas. Non, les artistes ne sont pas des gens comme les autres. La preuve, elles ont besoin de silence, plus que la moyenne des gens. Elles noyautent le silence jusqu'à ce qu'ils avouent, jusqu'à ce qu'ils crachent les mots, les musiques ou les images qu'ils contiennent. Les artistes ne sont pas des gens comme les autres parce qu'elles sont des tortionnaires, en fait. Des tortionnaires torturés qui connaissent bien le supplice de la chaise électrique chaque jour de leur vie, même debout. Elles le cherchent même quand il y a une panne de courant, surtout quand il y a une panne de courant. Les artistes sont aussi des contorsionnistes, toutes, même quand elles ne font pas dans le showbiz. Elles connaissent tous les trucs pour contourner le silence, les images. Elles connaissent le truc de la femme sciée en deux, de celle qui disparaît dans un garde-robe hermétiquement fermé, le truc du lapin qui se pose à la place de la colombe qu'elle croyait voir s'envoler, le truc de la poussière, de l'appartement si sale que c'est lui qui empêche de se concentrer, le truc du manque de vitamines ou de la chute de calcium à volonté, bien plus facile à réaliser que le truc de la page blanche qui se remplit de phrases inédites, ou celui de la toile qui se peint directement avec les rayons du soleil ou les moiteurs de la nuit, ou encore le truc du spectacle qui monte comme une fleur en graine. Ça a l'air si facile qu'on dirait que tout le monde pourrait en faire autant. Presque. Les artistes ne sont pas des gens comme les autres. La preuve, elles ont besoin de solitude, beaucoup plus que la moyenne des gens. Et on sait que la moyenne est élevée. Elles doivent être addictes, un genre de drogue. Il faut bien être une artiste, parce que les artistes ne se rendent pas compte de la réalité, pour avoir besoin de solitude alors que la solitude est déjà partout, banale, chez elles, chez tout le monde. Les pieds sur notre table et le nez dans nos assiettes. Et les artistes trouvent le moyen de la convoiter à tout prix. À croire que c'est une courtisane, même si elle n'est pas rare, même si elle ne vaut pas cher et que personne ne ferait monter les prix si on la mettait à l'encan. Les artistes peuvent au moins se la payer. C'est dans leurs moyens. Mais la majorité des gens qui lisent le journal pensent que le bottin de l'Union des artistes est rempli de Rockefeller. Rockefeller est mort de rire devant tant de naïveté. Mais les rumeurs continuent de circuler. Il n'y a pas que des artistes dans le bottin de l'Union des artistes. Et toutes les artistes n'ont pas leur nom dans le bottin de l'Union des artistes. Les artistes ne sont pas des gens comme les autres, faut pas croire. Vous avez raison de penser que ce sont des irresponsables, des insouciantes. Quand elles ont de l'argent, en général, elles le flambent. Elles ne savent pas ce que c'est un REER, non mais, ou si peu. Parfois, elles ont des maisons, des voitures, mais faut pas croire. Ce n'est peut-être pas pour longtemps. Elles ne savent pas bien garder ce qu'elles ont. Elles dilapident. En plus, elles disent souvent des gros mots, des phrases qu'on ne comprend pas. Elles nous tendent des miroirs alors qu'on n'a même pas demandé à se regarder. Elles nous montrent sans prévenir des images qu'on n'est même pas habitué de voir. Les artistes ne sont pas des gens comme les autres parce qu'elles ne savent pas vivre. Elles n'ont pas le temps de vivre la vie parce qu'elles la créent. Elles passent leur grande journée à l'inventer. C'est pas une vie. C'est pour toutes ces raisons auxquelles j'ai terriblement réfléchi que je pense qu'il faut vite leur donner un statut particulier. Pour les protéger contre elles-mêmes, en fait. Parce qu'on en a besoin. Moi, je vois ça comme un geste humanitaire. Ailleurs, à d'autres époques, on érigeait des statues à la gloire des artistes. Encore maintenant. C'est pas pareil, mais il arrive qu'on compte jusqu'à 50 000 personnes à un enterrement d'artistes. Le marbre est trop cher aujourd'hui. Ici, c'est pas pareil. Nous n'avons jamais eu de marbre et l'importer est hors de prix. Et puis on s'est dit un jour, je me souviens, parce qu'on connaissait notre tendance à l'oubli. On s'est pas corrigé de ce vilain travers et on a même oublié notre devise puisqu'on a encore voté dans le rouge. Et puis les artistes, c'est bien de les sortir quand il y a de la visite, mais le reste du temps, elles sont gênantes. À moins qu'elles n'aient la brillante idée d'aller se faire aimer ailleurs. Là, je ne dis pas. Les autres doivent savoir mieux que nous. Alors, un bon geste, donnez-leur un statut. C'est moins cher que le marbre importé de Carrare. Ou peut-être mieux. lisez leurs livres, faites tourner leurs chansons à la radio, faites-leur des spéciaux à la télé. Pour un Gainsbourg sous et sale et stupide, on devrait bien pouvoir se payer une dizaine d'artistes québécoises. Remplissez leurs salles, même si elles ne s'appellent pas Reggiani, Cabrel, Renaud ou Gréco. À bien y penser, ce serait peut-être mieux de les aimer que de leur donner un statut. Septembre 1986.
Elle serait sur tous les fronts en ce moment et elle nous ferait rire avec, à travers ça parce que chez Hélène, l'humour était la grâce de son intelligence. Mais quand on voit combien la pandémie accentue les inégalités, elle serait mais dans le plafond et sur toutes les plateformes pour le dénoncer. C'était une voix essentielle, Hélène. Et aujourd'hui, je suis contente. Elle serait heureuse de ça parce qu'il y a une génération de jeunes femmes très instruites qui se lèvent debout et qui se solidarisent. Elle serait très heureuse de ça. Ce sont les filles d'Hélène. Ce sont les filles d'Hélène.
Chronique numéro 31, y a-t-il une manipulation dans la salle ? Ou, non, pas de gosses dans les gosses. Précieux sang, 15 septembre 1986. À la fille qui ronne la revue, il y a tellement de noms de filles dans cette revue qu'on ne sait pas qui c'est qui la ronne. Chère madame, pendant que ma petite fille est allée à sa réunion contre les revues cochonnes, je vous écris en cachette. J'ai pris votre adresse dans sa revue qu'elle laisse traîner partout parce qu'elle pense que je ne la lis pas. Je fais voir de rien parce qu'elle serait déçue si elle apprenait que je pense souvent comme elle. Elle a l'air de tenir énormément au conflit des générations et au fossé qui vient avec. C'est de son âge. Moi, ça fait longtemps que mes jambes sont plus assez bonnes pour descendre dans les fossés. En tout cas, j'ai décidé de vous écrire parce que je suis indignée. C'est Roberte qui m'a montré ce beau mot, c'est la première fois que je me risque à le placer quelque part. Connaissez-vous ce mot-là aussi, jeune comme vous êtes ? En tout cas, ça veut dire que je suis en beau maudit. J'ai écouté un programme de radio qui parlait de manipulation génitale, ou congénitale. En tout cas, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je sais que c'est encore une affaire de sexe. Il paraît que c'est rendu qu'on peut faire des bébés dans des pots, qu'on peut faire naître deux jumeaux pareils à 10 ans de distance, qu'on peut prendre le liquide de son mari et payer une femme qu'on ne connaît pas pour qu'elle essaie de faire un bébé avec, sans faire l'acte, puis toutes sortes de cochonneries pareilles. Moi, je pense que mon défunt aurait jamais pu faire ça parce qu'il s'est plaint toute sa vie qu'il manquait de liquidité. J'en sais quelque chose. Mais le pire de tout, c'est que le gars du programme a dit que les hommes allaient pouvoir avoir des bébés sans passer par la femme. Moi, mon cri du cœur, c'est « non ». Ça doit être à Radio-Canada que j'ai entendu ça. Ça prend bien rien qu'eux autres pour dire des affaires de fifi comme ça. Aïe, des hommes, avoir des bébés. J'ai bien agacé mes gendres avec leur bedaine de bière. Coudant, es-tu enceint ? Mais c'était une farce. Je les vois pas avec un bébé dans leur ventre, surtout pas ces deux-là. Imaginez qu'ils tomberaient sur le ventre quand ils sont pactés. Pensez-vous qu'ils vont arrêter de boire pour ça, voyons ? Même les AA ont manqué leur coup avec ces deux snorôles. Ils ont la couenne dure, puis à part ça, il leur manque des parties. Où c'est que le bébé va grandir, entre l'estomac puis les intestins ? Pauvre enfant. Moi, être un fœtus dans ces conditions-là, je partirais une campagne pour l'avortement si ça se pouvait. Déjà qu'ils mettent les enfants dans le ventre des femmes puis qu'ils s'en occupent pas. Imaginez s'il fallait qu'ils les portent eux-mêmes, ce serait effrayant. Faudrait mettre Brigitte Bardot là-dedans, elle est bonne pour la protection de la jeunesse. En plus, ils sont tellement douillettes qu'il faudrait s'en occuper comme des bébés pendant 9 mois. On n'aurait plus le temps de rien faire. Non, non, il ne faut pas que ça arrive. À part de ça, c'était à peu près tout ce qui restait de personnel à nous, la femme. Ils seraient assez prétentieux pour penser qu'ils pourraient être meilleurs que nous autres là-dedans aussi. Qu'est-ce qui va nous rester ? Si les coqs bendés se mettent à pondre, on n'a pas fini de les entendre crier puis de les voir se parader. Mais tu peux être sûr, par exemple, que les gynécologues vont se mettre à être meilleurs, tu vas voir. Le gars du radio a dit que la meilleure place pour porter un bébé pour un homme, c'était dans les testicules. J'ai failli faire une crise cardiaque. J'ai le cœur faible depuis mon infarctus. Là, c'était trop. J'ai mis ma pilule en dessous de ma langue, puis j'ai fermé le radio. C'est là que j'ai décidé de vous écrire. Il ne faut pas laisser faire ça. Allez-vous partir une pétition ? Je la signe tout de suite. Allez-vous casser les pots de liquide d'homme qui sont congelés partout ? J'y vais. appelez-moi. J'ai une bonne canne solide. Moi, madame, j'ai 78 ans. J'en ai élevé 11 à bout de bras, sans manipulation ni rien. Ça fait que je sais de quoi je parle. Puis je sais que mon mari aurait jamais pu faire ce que j'ai fait. Ça fait que je veux rien savoir de ces affaires-là. Je veux même pas en entendre parler. Et je signe la tête haute, une mémé choquée noire. Octobre 1986. Vous venez d'entendre des chroniques délinquantes de La vie en rose de Hélène Pedneau, ainsi que des éléments d'entretien avec Lorraine Pagé et Ginette Noiseux. Redécouvrir Hélène Pedneau, une série de balados proposée par Marion Cousineau. Lecture, entretien et montage sonore, Marion Cousineau. Thème musical, Jean-François Groux.